Chapitre 2. Pour connaître les sentiments du notaire et de sa femme, Madame Artaud, quand elle s'était inquiétée des relations de Médéric avec eux, n'avait point eu d'enquête à faire, leur amour était de notoriété publique, et dans le pays, il n'y avait qu'une voix là-dessus. Des amoureux. Est-ce que d'honnêtes bourgeois, vivant tranquillement comme mari et femme, se promènent en bateau, à minuit, au clair de lune? Est-ce qu'ils se lèvent à 4 heures du matin, l'été, pour courir les bois, d'où ils rentrent trempés de rosée, chargés de bottes de fleurs forestières, comme des herboristes? Est-ce qu'ils vont faire la dînette dans les îles, en tête à tête, au lieu de dîner paisiblement dans une salle à manger confortable, où les mets que leurs domestiques servent proprement sont chauds et les vins frais? Ces façons d'être sont celles des amoureux, qui, mariés ou non, ne recherchent que la satisfaction de leur passion, sans prendre souci des convenances et des habitudes reçues. À côté de ceux qui se moquaient de ces bizarreries un peu fortes, surtout chez un notaire, il y avait ceux qui les toléraient et même les excusaient. Ne faut-il pas que jeunesse se passe? Et puis, dans leur esprit d'indulgence, ceux-là reconnaissaient que la femme avait eu assez à souffrir avec son premier mari pour avoir droit à des compensations avec le second. Pas drôle, vraiment, courteuse, grossier, insolent, brutal, ne vivant que pour gagner de l'argent en écorchant le pauvre monde et n'employant cet argent qu'à ses satisfactions égoïstes qu'il ne partageait avec personne. La Vaupalière, au contraire, affable et polie avec tous, était aussi dispo à écouter les humbles que les riches. Quand un ouvrier ou un paysan lui tendait la main, il ne regardait pas avant de la prendre si elle était encroûtée de terre ou noire de charbon. Et quand un bourgeois passait devant son kiosque, il avait l'invitation facile, sans s'inquiéter de savoir si elle lui rapporterait un produit immédiat. En tout, un bon garçon qui ne pouvait qu'être adoré de sa femme. Et elle aussi méritait bien d'être aimée de son mari, au moins telle qu'on la voyait maintenant, si différente de ce qu'on l'avait trouvée à son arrivée à Oissel quand elle sortait du couvent, et par ses allures excentriques, son air évaporé, son dédain des convenances, son mépris de la mode, elle suffoquait les femmes et éloignait les hommes. Évidemment, les apparences étaient trompeuses. Malgré tout, cette évaporée avait des principes qu'elle pratiquait régulièrement. D'autre part, les hommes s'étaient aperçus à la longue qu'une gamine peut avoir certains charmes, et du jour où cela avait été admis, Hortense s'était trouvée douée de mérite qu'on ne soupçonnait même pas la veille. « Vous savez, Madame la Vaupalière ?»« Eh, eh !» Et l'on se disait que s'il arrivait qu'à un certain moment elle en eût assez de son mari, il serait agréable, quand cette heure sonnerait, d'être de ses amis. « Eh, eh !» Mais sonnerait-elle jamais? Et cependant, quand on se posait cette question, à laquelle chacun faisait une réponse différente selon ses idées et son tempérament, il y avait longtemps déjà qu'elle était résolue. Cet amour, si violent chez les amants, s'était tout à coup éteint chez les époux, et son histoire avait été celle de la marguerite qu'on effeuille. « Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. » La phase du peu avait été rapidement franchie, celle du beaucoup et du passionnément s'était prolongée tant qu'ils n'étaient pas libres. Et du jour où ils avaient eu toute liberté de s'aimer tant qu'ils voulaient et comme ils voulaient, celle du pas du tout avait commencé. Certainement, leur meilleur temps et le plus doucement rempli avait été celui du veuvage d'Hortense. Les difficultés et les incertitudes, qui, si souvent pendant la vie de Courteheuse, les avaient angoissées, n'existaient plus et ils pouvaient se voir quand ils voulaient, sans avoir cependant la possibilité d'être ensemble toujours et jusqu'à satiété. De là naissait une situation particulière pleine de charme. Les excitations pour l'un et pour l'autre, chacun de son côté la préparation de leur entrevue, la secousse délicieuse de la réunion, l'impatience nerveuse du temps écoulé, l'anéantissement de la séparation, et enfin, pendant qu'ils restaient éloignés l'un de l'autre, le recueillement des souvenirs d'hier se mêlant aux émotions de l'attente de demain. Combien de belles journées avaient-ils eues aussi pendant ces 14 mois, le vendredi, dans leur petit appartement près de la gare, ou le dimanche dans leur promenade aux environs de Rouen, au bord de la mer et même à Paris quand la mauvaise saison rendait impossible les courses à travers champs. Les précautions qu'ils devaient prendre pour se cacher n'étaient que des excitants, comme l'étaient les obstacles imprévus, et aussi l'imminence de la séparation suspendue sur eux qui dévorait le temps qu'ils avaient à rester ensemble. Que de fois alors n'avait-il pas répété le même mot « Quand nous serons mariés ?» Par quel projet n'avait-il pas escompté ce jour qui, pour leur impatience, semblait ne devoir arriver jamais ? Mois après mois, jour après jour, ce temps qui leur semblait si long, quand en réalité il était si court, avait passé et ils s'étaient trouvés, mari et femme, libres de montrer leur amour et de le crier à tous, de parler haut, de se regarder franchement, de s'embrasser, de s'appeler de loin « Hortense ! Antonin !» Pendant ces 14 mois, ils avaient dressé leur programme pour ce moment. « Quand nous serons mariés ?» Et mariés, ils s'étaient consciemment employés à le réaliser. Que de choses à faire ! C'est alors qu'on les avait rencontrés dans les rues du village, le matin, à des heures extraordinaires, la nuit, quand tous les honnêtes gens doivent être dans leur lit. De toutes les promenades qu'ils projetaient, c'était celle des environs d'Oissel qu'ils désiraient le plus, précisément parce qu'ils ne pouvaient pas les faire, sous peine de s'exposer à être rencontrés, et aussi parce que, pendant ces années de mariage, courteuse, qui ne comprenait pas qu'on pût marcher pour marcher, ou regarder un arbre autrement que pour le cuber, n'était jamais sortie avec sa femme pour le plaisir de sortir. Leur programme comprenait donc ces promenades que la Vaupalière qui les connaissait promettait à Hortense pour l'époque où ils pourraient paraître en public, la tête haute. « Tu verras la mare des Essarts, la source du Becquet, les cavernes d'Orival. » Mais, chose étrange, en faisant ces promenades si souvent préparées, ils n'y avaient pas trouvé le plaisir qu'ils s'en promettaient. N'était-ce pas extraordinaire, alors qu'ils étaient libres de partir et de rentrer quand ils voulaient, sans se cacher, sans avoir à compter les minutes? Souvent, ils s'étaient fait fête d'aller voir le soleil se lever du haut de la roche Foulon, ou le miroitement de la lune entre les divers canaux de l'île Sainte-Catherine, et voilà qu'ils avaient trouvé qu'au soleil levant, il se produit un refroidissement qui n'avait rien d'agréable, de même qu'il n'y a rien d'agréable non plus à tremper dans les brouillards glacés qui, la nuit, rampent sur la rivière. Et alors, au lieu de développer leur programme, d'un commun accord, ils l'avaient abrégé. « Est-ce que c'est vraiment curieux, les longs vallons dont tu m'as si souvent parlé ?» En tout cas, c'est loin. Si nous n'y allions pas, où peut-on être mieux que chez soi? Mais sur la pente où ils glissaient, le chemin se fait vite. Il ne leur avait pas fallu longtemps pour reconnaître que les plaisirs du chez soi, qu'ils avaient tant désirés, dont ils avaient tant parlé, peuvent devenir monotones, comme peuvent devenir longues, très longues aussi, les heures du tête-à-tête. Comment cela ? Quoiqu'ils ne voulussent pas examiner cette question, sentant qu'il vaudrait mieux l'écarter, elle s'était imposée pour ne plus les lâcher. Quoiqu'ils ne voulussent pas non plus regarder en eux, ils avaient conscience qu'un grand apaisement s'était opéré dans leurs idées comme dans leurs sentiments, dans leurs désirs comme dans leur amour, et que le souffle irrésistible qui les avait emportés au début s'étant calmé, ils étaient tombés des hauteurs où ils les maintenaient dans une tranquillité qui, pour la première fois depuis qu'ils s'aimaient, leur avait permis de s'examiner et de se juger. Et quoi ? Comment il n'y avait pas dans cette belle tête blonde, au profil si gracieux, aux yeux si pleins de promesses, que ce qu'elle y trouvait maintenant, et ce caractère, auquel elle s'était plu à donner toutes les qualités dont elle le parait, n'avait pas plus de force, plus d'élan, plus de ressort ? Quelle surprise de le voir maintenant si différent de ce qu'elle le voyait autrefois ! Cependant, il fallait qu'elle s'avouât qu'il n'avait pas changé, et, puisqu'il en était ainsi, qu'elle s'avouât aussi que bien étrange et bien malheureux avait été son aveuglement. De son côté, la Vaupalière se disait que cette séduction diabolique qu'il avait fascinée et dominée au point de supprimer en lui la réflexion et la raison pouvait être charmante dans une maîtresse qui était la femme d'un autre, mais que le point de vue change quand on la trouve dans sa propre femme. Et si complet était ce changement qu'après le mariage, la séduction s'effaçait pour ne laisser subsister, inquiétant, que le seul diabolique, ce qui amenait à reconnaître pour un esprit sincère que tant qu'elle était Madame Courteheuse, elle avait des charmes qui devenaient des défauts chez Madame la Vaupalière, plus que des défauts, des tares et des infirmités. N'était-ce pas extraordinaire ? mais il ne l'était pas moins qu'en même temps qu'il arrivait à cette conclusion, Hortense, en suivant des chemins différents, vit clairement que leur amour ne ressemblait maintenant en rien, ni par sa nature même, ni par ses émotions, ni par ses jouissances, à celui qui les jetait aux bras l'un de l'autre, exaltés et ravis, quand elle était Madame Courteuse. Il servait donc à quelque chose, ce mari détesté. Alors, pourquoi l'avoir supprimé? Qui leur eût dit qu'ils en viendraient un jour à regretter ce premier mari qui leur paraissait si gênant et qu'ils avaient si franchement détesté? Décidément, il avait été mal jugé et certainement, il valait mieux qu'on ne croyait de son vivant. Il leur manquait. Avec lui, c'était plus drôle. Ils avaient des troubles, des angoisses, des extases qu'ils ne retrouvaient plus. Ils vivaient alors et se voyaient ceints d'une auréole que le mariage maintenant avait éteinte.